Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Ressenti jusqu'à Athènes et Istanbul, un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter s'est produit cet après-midi en mer Égée, provoquant un mini tsunami sur l'île grecque de Samos, au large d'Izmir, la troisième ville de Turquie blessée elle aussi par la secousse. Dans toute la zone, les recherches se poursuivent ce soir pour sauver les habitants coincés sous les décombres. Les autorités turques confirment pour l'instant la mort d'au moins 4 personnes et au moins 152 blessés. À Istanbul, les précisions d'Anand Lauer.
C'est une secousse particulièrement violente, comme l'ouest de la Turquie n'en avait pas ressenti depuis des décennies, qui a fait trembler pendant 15 secondes toute la province d'Izmir à 14h51 heure locale. Les images de bâtiments de plusieurs étages effondrés ou en train de s'effondrer, de nuages de poussière s'élevant dans le ciel et d'habitants paniqués se précipitant dans les rues sont très vite apparues sur les écrans de télévision et les réseaux sociaux. Les régions de Bornale et de Bayraklı sont les plus touchées. Selon le préfet d'Izmir, 4 immeubles se sont totalement effondrés dans la province, mais les recherches de survivants concernent en tout une douzaine d'immeubles. La télévision turque a montré des images de blessés sortant des décombres et d'habitants leur venant en aide, en attendant l'arrivée des secours qui ont parfois été retardés par les énormes embouteillages qui ont suivi la secousse. Les secours se poursuivent sous la menace des répliques, nombreuses, qui ont atteint jusqu'à 4,8 de magnitude. Les autorités appellent les habitants de ces régions à ne surtout pas retourner chez eux. La secousse a aussi provoqué des inondations dans les rues de Seferihisar, un autre district d'Izmir situé sur la côte égéenne. L'une des victimes du séisme est d'ailleurs morte noyée. À Istanbul, un Loire pour Radio Vatican.
Au lendemain de l'attentat de Nice, les catholiques invités à la prière des églises resteront ouvertes pour le week-end de la Toussaint et les célébrations des défunts lundi. L'État promet cependant une protection accrue des lieux de culte dès demain avec le déploiement de 4000 militaires supplémentaires. Hier, 3 fidèles ont donc perdu la vie à Nice. Ils ont été brutalement assassinés dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption. L'auteur présumé de l'attentat terroriste aurait 21 ans. Il serait originaire d'une famille modeste de Tunisie. Il aurait averti celle-ci de son arrivée en France avant-hier. Le jeune homme se serait radicalisé il y a 2 ans maintenant. Il serait passé par la Méditerranée et l'île de Lampedusa pour arriver en Europe. La France met cependant en garde contre les raccourcis. Sur les 30 derniers attentats en France, 22 ont été commis par des Français, affirme le ministre de l'Intérieur. On passe vite de la haine virtuelle à la violence réelle. De son côté, le chef de la diplomatie française appelle les Français de l'étranger à la prudence. La sécurité des consulats, ambassades, alliances françaises sera renforcée, promet-il, alors que des manifestations anti-françaises ont lieu ce vendredi au Pakistan, au Bangladesh ou même au Liban, où des heurts ont éclaté avec la police. Des défilés pour dénoncer le soutien apporté par le président Macron à la liberté de caricaturer. Un scrutin à haut risque demain en Côte d'Ivoire. 7,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour choisir leur président. Le chef d'État sortant Alassane Ouattara se présente pour un troisième mandat contesté, au point que la plateforme de l'opposition de Henri Conan-Bédier et Pascal Affine-Guessant affirme qu'elle se battra pour que le scrutin de demain n'ait pas lieu, avec la mise en place par exemple de barrages. Ce matin, des incidents ont éclaté à Yamoussoukro et Bonoua. Des forces de l'ordre sont intervenues pour séparer des jeunes d'ethnies différentes. Depuis le mois d'août, des violences préélectorales ont fait une trentaine de morts. De nombreux habitants des villes ont regagné les villages avant le scrutin. La crainte d'une nouvelle flambée de violence comme celle d'il y a 10 ans est bien réelle. Cette élection se déroule dans un pays qui, hélas, n'a pas avancé depuis dans le processus de réconciliation. C'est ce que regrette le père Arsène Brice Badeau, vice-président du Centre de recherche et d'action pour la paix à l'Université jésuite d'Abidjan.
Depuis la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait entraîné plus de 3000 morts, il n'y a pas eu de vraie réconciliation. On a eu l'impression que c'était une justice de vainqueur, donc les problèmes n'ont pas été réglés. Et ce sont tous ces problèmes-là qui ressurgissent. Chaque camp a vraiment peur de la revanche. Et malheureusement, certains candidats de l'opposition voilent à peine leurs menaces. Donc, ça crée une situation qui n'est pas rassurante. Personne n'envisage de perdre. Par exemple, le camp au pouvoir pense que si jamais ils perdent le pouvoir, ben, ils vont se retrouver en exil, comme les autres. Dans cette perspective, ni l'opposition, ni le parti au pouvoir est vraiment disposé à perdre ces élections-là. C'est pour ça que nous voyons justement cette épreuve de force. Or, la démocratie, ce n'est quand même pas cela. Les opposants ne sont pas des ennemis. L'urgence, c'est vraiment rétablir le dialogue. Il n'y a pas de problème ici en Côte d'Ivoire qu'on ne puisse pas régler justement par le dialogue. Rétablir le dialogue pour sauver des vies en Côte d'Ivoire et sauver la paix.
Des propos recueillis par Olivier Bonnel. En Guinée, l'opposition n'a pas dit son dernier mot. 12 jours après la présidentielle, elle rejette catégoriquement ce vendredi les résultats partiels accordant 59,5% des suffrages au chef d'État sortant Alpha Condé, 82 ans. Devant la presse à Conakry, Sélou Dalène Diallo, arrivé second lui du scrutin, a appelé tout à l'heure et en compagnie de 9 autres candidats de l'opposition à une reprise des manifestations mardi prochain. C'était il y a 7 ans au Kenya, un commando se revendiquant des chebabs islamistes avait fait éruption dans un centre commercial très luxueux de Nairobi, le Westgate. 4 jours de siège qui se soldèrent par la mort de 67 personnes. Ce vendredi, 2 complices des assaillants ont été condamnés à 18 ans de prison. Après un mois de violents combats au Nagorno-Karabakh, les chefs des diplomaties arméniennes et azerbaïdjanaises sont ce vendredi à Genève. Ils doivent rencontrer les coprésidents du groupe de Minsk sans que l'on sache si un tête-à-tête entre eux n'est prévu. Selon le président russe, en un mois, 5000 personnes auraient perdu la vie sur place. Ce vendredi, Amnesty International déplore l'utilisation de bombes à sous-munitions par les troupes arméniennes. En Ukraine, le président Zelensky soumet un projet de loi au Parlement pour, et bien simplement, pour dissoudre la Cour constitutionnelle après la décision de celle-ci d'invalider une partie des lois anticorruption en vigueur pourtant depuis des années au motif de leur trop grande sévérité, supprimant par exemple la responsabilité pénale des fonctionnaires mentant sur leurs revenus. Une décision qui a d'ailleurs poussé des centaines de personnes ce matin dans la rue, des jeunes et des militants anticorruption. Et puis avant de se quitter, on l'a appris ce matin, la traditionnelle crèche de la place Saint-Pierre sera cette année faite en céramique. Elle vient des Abruzzes en Italie. Le grand sapin, lui, vient de Slovénie. Inauguration prévue le 11 décembre prochain. Retour en France pour notre dossier. La France où les catholiques, mais pas uniquement, sont toujours sonnés par l'attentat de Nice. À quelques kilomètres de la basilique Notre-Dame de l'Assomption, là où ce jeune homme a tué 3 fidèles, vit le père dominicain Yves-Marie Lequin, aumônier du milieu artistique pour le diocèse de Nice. Passé les premières heures d'émotion légitime après ce nouvel accès de violence meurtrière, le père Lequin nous livre une réflexion sur la nécessité, selon lui, des mesures à prendre pour désarmer cette violence terroriste et donner un sens à cette souffrance.
Prendre tout ce qui sera nécessaire, je dirais, pour protéger nos chrétiens, pour protéger tous ceux qui veulent continuer à célébrer le culte, quel qu'il soit, d'ailleurs, je dirais, dans les meilleures conditions, et qu'on puisse leur garantir, je dirais, une certaine sécurité. Et puis, je crois, continuer de faire cet effort et de travailler à aussi défaire toutes ces formes complètement dingues, quoi, de ces idéologies qui contiennent beaucoup d'erreurs, mais encore faut-il à chaque fois retravailler pour les mettre en avant. De toute façon, je crois que le problème de la violence, lorsqu'elle se déchaîne, c'est qu'il y a une sorte d'engrenage contre lesquels on ne sait plus trop quoi faire, en fait. Mais je vois qu'il y en a qui désirent, par exemple, oui, on va ouvrir les églises, on va quand même tout faire comme si de rien n'était. Je suis pas prêt à lancer tous les fidèles dans l'aventure du martyr. D'abord, martyr, c'est d'abord être témoin. Je pense que nous avons le devoir de continuer d'être témoin de notre foi au milieu de la violence. Ça, c'est un devoir, c'est le sens profond du martyr. Après, la forme que ça prend, je dirais à chacun, selon sa vocation, de voir ce qu'il a à faire. Mais il peut y avoir... par exemple, un martyr, c'est-à-dire un témoignage dans la réflexion, dans les rencontres interreligieuses. Voilà.
Comment sortir par le haut, si j'ose dire, de cette spirale infernale?
Moi, je dis toujours le premier réflexe chrétien, parce que c'est celui du fond du don du Christ, ce que nous avons reçu, qui est le don de l'agapé, de cette charité qui ne veut connaître aucune limite, et bien de cet amour, voilà, cet amour universel, profond, réel, ce don que nous avons reçu. Eh bien, c'est déjà de le mettre en route par la prière. Je crois que le premier mouvement, d'ailleurs c'est celui du pape tout de suite, dans les pensées qu'il a pour Nice, pour cet attentat, dire voilà cette prière, la conférence des évêques de France, qui a voilà pris pour le pays, pour ce pays qu'est la France, qui propose une prière aux fidèles. Déjà faire un mouvement de prière, parce que quand on ne sait pas quoi faire, ben, la charité, l'élan de la charité, l'élan de l'amour, eh bien, il passe par la prière. Et ensuite, dans ce mouvement de la prière, eh bien, ensemble, voir tout ce que nous pouvons faire pour reconstruire quelque chose, reconstruire comme le pape y invite, quoi, reconstruire, retravailler, je dirais, cette fraternité, mais je dirais jour après jour, avec des petites choses. Après tout, aux yeux de Dieu, il n'y a ni petites ni grandes choses. Quand il s'agit d'amour, il n'y a forcément que de grandes choses. Mais Il faut savoir recommencer des petits pas.
Interrogé par Olivier Bonnel, le père Yves-Marie Lequin, dominicain à Nice, était l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Rendez-vous demain à 8h30 pour un nouveau tour du monde de l'actualité. Excellente soirée.